Les archives d'Afrique. Alain Foka.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Pour notre pays, et un pays que c'est encore...
Notre pays se trouve dans la partie sud de l'Afrique. Et nous avons une frontière avec la Namibie, qui est un pays dominé par l'Afrique du Sud, son pays voisin. Nous sommes pourtant soumis à toutes les contingences de l'intervention impérialiste dans notre lutte pour la libération. Contingences qui ont pour seul objectif de perpétuer la domination coloniale. Les impérialistes y sont très impliqués. Nous voyons des intérêts étrangers énormes qui pénètrent de plus en plus notre pays, notamment pour l'exploitation des matières premières comme le pétrole par exemple, le fer, les diamants, l'or, l'uranium et bien d'autres matières premières qui sont régulièrement exploitées par les colonialistes.
Et c'est justement pour défendre les immenses richesses de son pays, l'Angola, qu'il va se lancer très tôt dans la lutte d'abord contre la colonisation portugaise, puis contre l'impérialisme occidental en forte période de guerre froide. Agostinho Neto.
Je n'écrirai pas ce poème. Dans quel souterrain circulerait l'air irrespirable de la violence? Dans les cavernes de tes poumons, ô entreteneur des ruelles sordides du conformisme, ou dans l'avidité des intestins interminables des chacals, ou dans les crevasses prostituées du cœur infâme de l'esclavagisme, ou dans les gueules de la malhonnêteté inconsciente, je n'écrirai pas ce poème. J'écrirai des lettres à mon aimé, et l'amertume restera en moi de ne pas avoir écrit le poème.
Cet extrait de poème, tout en tristesse, tout en nostalgie, tout en mélancolie, Agostinho Neto, le jeune médecin, l'écrit du fond de sa prison à sa bien-aimée, à son pays. Il vient d'être arrêté par la sinistre PID, la police politique portugaise, qui l'a arrêté alors qu'il revenait d'un congrès socialiste à Vienne. On lui reproche son fort engagement nationaliste, son serment pour la cause angolaise. Pas question pour cet intellectuel taciturne et austère, piètre orateur, mais déterminé de renoncer à son combat, puisque 3 ans plus tard, à sa sortie de prison, il est porté à la tête du mouvement populaire pour la libération de l'Angola, né 3 ans plus tôt de la fusion du Parti communiste et du Parti de la lutte des Africains de l'Angola. Agostinho Neto naît le 17 septembre 1922 à Kasikane, un petit village situé à une 60aine de kilomètres de Luanda, dans la région nord-ouest de l'Angola. Son père, un pasteur méthodiste, et sa mère institutrice sont des assimilados. C'est le terme donné à des sujets africains de l'empire colonial portugais des années 1910 aux années 1960 qui avaient atteint un niveau de civilisation, selon les normes légales portugaises, qui les qualifient théoriquement comme citoyens portugais de plein droit. Mais en réalité, ils ont un statut intermédiaire entre celui de citoyen et celui d'indigène. Par exemple, les assimilados étaient exemptés de travail forcé imposé aux indigènes. Il faut se souvenir du modèle de colonisation portugais. À partir de 1945, se développe la thèse du lusotropicalisme, qui appuie l'idée selon laquelle les Portugais font preuve d'un génie colonisateur qui repose sur le métissage culturel et racial. Autrement dit, le Portugal prétend faire preuve d'une géniale disposition à assimiler les populations qu'il a servies. Pourquoi les Portugais devraient-ils quitter leurs possessions africaines puisqu'ils sont là pour rendre service aux indigènes en leur apportant leur génie, leur civilisation et surtout en les assimilant, c'est-à-dire en leur permettant de s'élever vers la civilisation portugaise et de devenir un jour de vrais citoyens portugais. Le Portugal dit donc assimiler en alphabétisant par exemple, notamment par la langue. Pourtant, dans le même temps, en 1950, le taux d'analphabète en Angola est de 97% et de 98% pour le Mozambique voisin. Mieux, en 1960, les assimilados représentent moins d'1% des 5 millions d'Angolais. Bref, il faut préciser que le statut d'assimilados était accordé à l'issue d'une enquête administrative attestant que leur mode de vie était bien assimilable à celui des colonisateurs portugais. Si l'enquête était concluante, il se voyait délivrer un certificat qu'ils devaient être en mesure de produire à tout moment pour justifier leurs privilèges. Cependant, leur position restait précaire dans la mesure où leur situation était périodiquement, bien que de manière irrégulière, réexaminée dans le cadre d'une nouvelle enquête les obligeant à mobiliser toutes leurs relations pour présenter les meubles, la vaisselle ou les nappes prouvant qu'ils vivaient à l'européenne. Pourtant, comparé au reste de la population, ce sont presque des privilégiés. Agostino Neto va faire ses études secondaires dans sa région natale. À la fin de son cycle secondaire, il va entrer au service d'hygiène de Luanda. Dévoré par l'ambition, il se met à économiser dans le but de se rendre en métropole pour y entreprendre des études de médecine. Lorsqu'il débarque à Lisbonne en 1947, le jeune étudiant qui s'inscrit à la faculté de médecine de Coimbra, puis de Lisbonne, compte déjà des dizaines de poèmes dans ses valises. Des poèmes très appréciés dans un cercle culturel anticolonialiste et nationaliste, l'Anangola. C'est sa façon à lui d'exprimer sa douleur de coloniser.
Dans le même temps, à Lisbonne, une foule se pressait sous le balcon de la résidence présidentielle pour acclamer le Premier ministre Salazar à l'occasion du 25e anniversaire de sa prise de pouvoir. 450 officiers de la Légion portugaise défilaient ensuite à la tête des diverses associations venues clamer leur fidélité au plus populaire des dictateurs.
Dans le Portugal du dictateur Salazar, Neto va rapidement choisir son camp, celui dit des progressistes. Un choix qui naturellement présente de gros risques puisque le jeune homme va être rapidement dans le viseur de la sinistre PIDE, la police politique portugaise, au service du dictateur Salazar. Agostinho Neto faisait en fait signer l'appel de Stockholm en faveur de la paix. Pour avoir soutenu la candidature de Quintao Morales, l'adversaire de Salazar, il va passer 3 mois en prison. À sa sortie, il ne change pas de cap. Son courage va justement lui valoir d'être élu représentant des jeunes des colonies portugaises auprès du MUT, un mouvement clandestin créé par la jeunesse portugaise de gauche. Neto exprime souvent sa colère à travers ses poèmes, avec entre autres son compatriote Mario de Andrade, Amilcar Cabral venu de Bissau, José Tenreiro, originaire de São Tomé. Il crée un centre d'études africaines, centre très rapidement fermé par les autorités portugaises qui jugent ses activités contraires aux intérêts du Portugal. En janvier 1955, l'année de la publication de son premier recueil de poèmes, au cours d'un meeting d'étudiants, la police l'arrête pour la seconde fois. C'est dans l'enfer de prison de Cassia à Lisbonne qu'il va composer des poèmes où s'exprime, avec un lyrisme frémissant, la nostalgie de la liberté et l'exhortation du combat contre l'oppression.
Qui donc a comparé l'Afrique à une interrogation dont le point serait Madagascar? Un poème solution qui résoudrait la courbe interrogative de l'image en ligne droite de l'affirmation. La beauté des forêts vierges et la précision des rouages de la vie et l'éclat fantastique du tonnerre sur les pierres, les cataclysmes fluvieux suspendus sur les fragiles pirogues du fleuve Zaïre, l'omnubilation angoissée des âmes dans la pénombre, la lueur crépusculaire dans le regard des hommes. Un poème gravé sur l'acier, écrit avec des fleurs de la terre et les bras sortis de la pourriture, sculpté dans l'amour qui exhale l'espoir de cet ami dont maintenant le pagne est mouillé de la sueur de son dos.
Malgré une campagne lancée pour sa libération par des écrivains comme Jean-Paul Sartre, Louis Aragon ou Nicolas Guélin, Agostinho Neto ne sera libéré que 3 ans plus tard, en juin 1957. Amnesty International va le proclamer prisonnier de l'année. Cette incarcération n'a rien entamé son engagement. Il va publier un opuscule de ses poèmes décrivant les conditions de vie imposées au peuple angolais et sa foi dans la certitude de la victoire finale sur le régime colonial fasciste portugais. Le 10 décembre 1956, plusieurs mouvements fusionnent en Angola pour former le Movimento Popular de Libertação de Angola, le MPLA. Il naît de la fusion du groupe africain du Parti communiste. Agostinho Neto sera finalement confirmé à la tête du MPLA en 1957. L'année d'après, Agostinho Neto épouse Maria Eugenia, sa compagne de lutte. À la fin de ses études de médecine en 1959, Agostinho Neto, avec femme et enfant, reprend le chemin du pays. Il ouvre un cabinet de gynécologie à Luanda. En Angola, la situation est particulièrement tendue. Face au mépris du régime totalitaire de Lisbonne, les nationalistes s'organisent. notamment dans les zones urbaines avec les ouvriers et les intellectuels progressistes. Le MPLA, dont il est le chef local, va très vite montrer sa capacité d'adaptation aux exigences du moment. Le gouvernement portugais ne peut tolérer ses velléités d'indépendance.
Où en serait aujourd'hui l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Océanie, une grande partie de l'Asie, si les explorateurs, les colons, les soldats, les missionnaires, les ingénieurs, les médecins de l'Occident n'y étaient pas venus?
Même si le général de Gaulle continue de magnifier l'œuvre civilisatrice de l'Europe à travers la traite et la colonisation, il est contraint en cette fin de la décennie 50 de lâcher du lest devant le vent de liberté qui souffle dans l'ensemble des colonies françaises. Ainsi, alors que la plupart des colonies françaises et anglaises accèdent en cascade à l'indépendance en cette année 1960, dans l'Afrique portugaise, rien ne bouge. Au contraire, elle durcit le ton face aux nationalistes. Échaudés par les agitations qui suivent l'accession à l'indépendance du Congo belge, les Portugais répriment systématiquement et impitoyablement les nationalistes. Ils envoient sur place en Angola 2000 parachutistes et des bombardiers. Ils organisent un procès militaire secret qui frappe les patriotes angolais tels que Alves Machado, le président du MPLA. Le 8 juin 1960, le directeur du PID, la police politique portugaise, se charge personnellement d'arrêter Agostinho Neto dans son cabinet de Luanda. Et en réponse à la manifestation pacifique organisée dans son village natal pour protester contre cette arrestation, l'administration coloniale va répondre par une féroce répression. Bilan, 30 morts et 200 blessés. C'est le massacre de Ikolo et Bongo. Après 4 mois de détention sur place, craignant les conséquences de sa présence en Angola, même sous les verrous, il est déporté et incarcéré à Lisbonne, à la prison d'Alhoubé. Ensuite, au Cap-Vert, à Santa Antão, où il continue d'exercer la médecine sous surveillance policière. Février 1961 à l'aube, des militants du MPLA, qui opèrent clandestinement à Luanda, lancent un assaut sur les prisons de la ville. Le but est de libérer les nombreux nationalistes qui y sont incarcérés. L'opération est un échec, avec une terrible répression de Lisbonne qui va faire quelque 10 000 morts. Mais c'est aussi le début de la guerre de libération. On entre cette fois-ci dans la phase armée de la lutte.
Je ne sais pas vous dire, c'est une chose très, très étonnante. Je ne sais pas. J'ai été étonné même. Quand ça s'est produit. Parce que nous étions même bien avec nos nègres. Nous étions bien avec nos nègres.
À l'explosion de la révolte populaire, le Portugal répond par une répression violente. Une violence qui n'échappe pas à la communauté internationale. Mais il s'agit du Portugal, qui malgré la crise, malgré son plus faible revenu européen, est une vieille puissance colonisatrice. La presse aussi multiplie les reportages sur ce cas unique.
Sur la carte de l'Europe, le Portugal est un petit pays. Mais sur la carte du monde, ce pays si pauvre présente, de l'Afrique à l'Asie, le seul empire colonial demeuré intact. Angola, Mozambique, Timor, Macao, Goa des Indes. Regardez, groupées, les possessions du Portugal recouvriraient presque l'Europe. Regardez, l'Angola, à lui seul, irait de l'Ukraine à la Belgique. En Angola, maintenant, voici que déferle l'immense vague du nationalisme africain. Mais le gouvernement portugais ne reconnaît pas le terme de nationaliste. Pour lui, ces hommes sont des terroristes et ils seront traités comme tels. En Angola, maintenant, c'est la guerre. Une guerre dont on ne sait pratiquement rien, car aucun journaliste étranger, sauf exception rarissime, n'est admis à en suivre les opérations. Et les rares images que nous en recevons sont des images officielles. Vous trouvez peut-être que tout ceci ressemble terriblement aux images du Congo. Mais attention, la guerre d'Angola menace d'être 100 fois plus atroce encore. Depuis le début de la rébellion, des centaines de Blancs ont été massacrés. Et le Portugal lance maintenant contre les nationalistes l'accusation formelle de génocide. Sur la répression portugaise, évidemment, pas d'image. Mais l'on parle de milliers de morts et les nationalistes, eux aussi, accusent les Portugais de génocide. Une enquête a été demandée auprès du Conseil de sécurité. À Lisbonne, les événements d'Angola sont devenus la préoccupation quotidienne. Plutôt que préoccupation, c'est angoisse qu'il faudrait dire d'ailleurs. Et l'homme de la rue découvre petit à petit qu'il est plongé dans une guerre et une guerre que l'on peut perdre. Les Portugais attendent obscurément une sorte de miracle. Et l'homme du jour est Adriano Moreira, le nouveau ministre d'Outre-mer, accueilli comme un véritable sauveur à son retour d'Angola.
Monsieur le ministre, vos journaux parlent actuellement d'une offensive générale en Angola.
Il y a une offensive générale dans les districts du Nord où nous sommes disposés à anéantir complètement le terrorisme. Nous avons trouvé parmi les cadavres des terroristes quelques-uns dont ils ont coupé la tête et les mains pour apporter avec eux.
Comment pourrez-vous maintenir vos provinces d'outre-mer sous leur souveraineté portugaise et blanche au milieu d'une Afrique en pleine ébullition et dont les États, collectivement et totalement, refusent le maintien des souverainetés?
Je peux peut-être vous répondre que nous sommes très habitués à être un cas unique. Nous avons l'habitude de dire que le difficile, nous le faisons tout de suite. L'impossible, ça prend un peu plus de temps, mais on le fait aussi.
Est-ce qu'il n'y a pas pour le Portugal d'autre solution que la lutte ouverte?
Contre le crime, il n'a d'autre solution que la lutte ouverte. Et maintenant, nous sommes devant un crime de génocide, pas devant un mouvement d'autonomie.
Mais la violence appelle la violence. Et je pense que quand vous employez l'expression de « anéantir », vous dites bien ce que vous voulez dire.
Oui, je vais dire exactement « anéantir ».
La violence appelle la violence. Mais une chose est certaine, c'est en Afrique, dans les forêts de l'Angola, que se joue sinon le destin du Portugal, du moins le sort du régime Salazar. L'échec, ici, risquerait d'être là-bas, le bouleversement. Car maintenant, ce n'est plus seulement une rumeur. Les voix se font plus distinctes.
Et bien sûr, le Portugal ne compte pas partir d'Angola. Il ne fait pas de prisonniers, il massacre. Dès le début, le gouvernement portugais s'entête dans un refus total de négociation. Il se lance dans une politique de lutte à mort envers tout mouvement qui tente à critiquer sa domination dans ses colonies. Les autorités de Lisbonne sont persuadées que le Portugal ne peut exister sans son empire. Si au Portugal on accuse les nationalistes, les terroristes comme on les appelle, de génocide, sur le terrain, les nationalistes eux aussi comptent des milliers de morts. Et les images ne vont pas rester longtemps secrètes. C'est précisément parce qu'il montrait l'une de ses photos de massacre à une amie à Santiago, au Cap-Vert, que Agostinho Neto est arrêté et transféré de nouveau, le 17 octobre 1961, à la prison d'Aljube, à Lisbonne. Le MPLA lance une grande campagne en faveur de sa libération. Elle fait alors appel à la solidarité internationale. La presse va finalement pousser le gouvernement portugais à le libérer le 22 mars 1962. Mais il est gardé en résidence surveillée sur place au Portugal. Le MPLA va concocter avec l'aide des forces antifascistes portugaises un plan d'évasion. Agostinho Neto va quitter clandestinement le Portugal avec sa femme et ses deux enfants en juin 1962. Direction Léopoldville, où se trouvent installés ses camarades en exil. Léopoldville, actuel Kinshasa, au Congo. Il va y retrouver d'autres nationalistes angolais n'appartenant pas au MPLA, comme Holden Roberto, dont le bras droit est un certain Jonas Savimbi. Le MPLA va y tenir au cours des mois de décembre de la même année 1962 sa première conférence nationale. Mario de Andrade se fasse alors au cours de ce rendez-vous pour céder la place à Agostinho Neto à la présidence. Seulement, à Léopoldville, le MPLA n'est pas vraiment le bienvenu. Il fait l'objet de nombreuses tracasseries. Son bureau va même finalement être fermé en novembre 1963. On prie ses dirigeants de quitter le Congo. Agostinho Neto va trouver refuge de l'autre côté du fleuve au Congo-Brazzaville, où le président Massamba Déba lui accorde l'hospitalité. Mais pourra-t-il combattre la répression portugaise qui s'amplifie à partir du Congo? Quelle est sa stratégie pour prendre pied dans son pays qui est à feu et à sang? On en parle dans une dizaine de minutes, juste après une nouvelle édition du journal sur RFI, dans la seconde partie de cette série d'archives d'Afrique consacrée à Agostinho Neto. Rendez-vous donc juste après le journal. Restez à l'écoute et à très vite.
Les archives d'Afrique, Alain Foka.
Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Mais Angola, elle est portugaise.
Qu'elle le restera dans l'avenir.
Elle restera toujours portugaise.
Vous pensez que le Portugal gagnera cette guerre?
Oui, absolument.
Quelle seja a situação, quer contra a situação, a guerra em Angola é um problema intocável
para
nós.
Même s'ils appartiennent à l'opposition, ils appuient le gouvernement sur ce point.
Aquilo que cabe mais pressa, aquilo é nosso.
Angola, c'était nous, c'est sa réponse.
C'est défendre la position de l'Europe en Afrique et surtout les valeurs. Et nous ne sommes pas des colonialistes, je crois bien que nous sommes surtout des colonisateurs. Et il faut que l'homme blanc reste en Afrique, il faut qu'il travaille et qu'il... L'Afrique ne peut pas se développer sans l'aide de l'homme blanc.
Pourtant, depuis la fin des années 1950, les nationalistes locaux n'acceptent plus cette colonisation, cette domination condescendante qui veut faire de l'Angola leur pays, une terre d'exploitation de l'Empire, où les Blancs possèdent des terres immenses, où le Portugal tire presque toutes ses richesses, le sucre et le café surtout. Avec les mouvements d'indépendance qui ont abouti dans les colonies françaises et belges à l'accession à la souveraineté internationale de certains territoires, les Angolais sont décidés à en finir avec cette présence qui dure depuis 500 ans. Et Agostinho Neto, qui en raison de son engagement pour cette lutte, vit désormais en exil au Congo depuis son évasion du Portugal, fait partie de ces leaders qui ont pris les armes depuis 1961 pour chasser le colonisateur portugais. Holden Roberto est l'un des leaders de cette révolution, le chef du FLNA, le Front de Libération Nationale de l'Angola.
La révolution angolaise a débuté en mars, le 15 mars 1961. Et elle a débuté, elle a commencé par, vous savez, une sorte de grève que nous avons, un mandat que nous avons donné pour que les travailleurs forcés qui... Enfin, le régime en Angola est un régime de travail forcé. Et on a demandé à ces travailleurs, à ces Angolais, de cesser le travail forcé. Et cette guerre s'est transformée ensuite par une guerre de révolution nationale, comme celle que vous connaissez, qui est en train de se dérouler maintenant.
Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale, Agostinho Neto. Après s'être évadé de la mise en résidence surveillée qui a suivi sa libération anticipée de la prison d'Aljoub à Lisbonne, Agostinho Neto a dans un premier temps trouvé refuge à Léopoldville, la capitale du Congo. Mais le nouveau président du MPLA, qui a remplacé Mario de Andrade à la tête du mouvement nationaliste, n'est pas vraiment le bienvenu dans ce pays où Holden Roberto, l'autre leader indépendantiste angolais, bénéficie de l'aide des autorités. Il va donc trouver refuge de l'autre côté du fleuve Congo, à Brazzaville, où le président Massamba Déba vient de remplacer l'abbé Fulbert Youlou. C'est sur cette rive du fleuve Congo qu'Agostinho Neto va lancer les fondements de la lutte armée puisqu'il bénéficie du soutien logistique. Le combat est désormais politico-militaire. Il installe sa base juste à la frontière congolaise, plus précisément dans l'enclave de Cabinda, considérée par Lisbonne comme partie intégrante de l'Angola. Ce maquis qu'il crée est son école de la guérilla. C'est d'ici qu'il va généraliser la lutte armée sur tout le territoire national. Pour Lisbonne, tout ceci n'est que l'œuvre de terroristes. Pas question de parler de nationalistes. Et la réponse du ministre d'Outre-mer du Portugal à cette question est sans ambiguïté.
Vous parlez de nationalistes angolais. De mon avis, ça n'existe pas. Il existe un mouvement tribaliste, Mukongo, donc le leader est Roberto. Mais n'oublie pas que le Mukongo représente que quoi ? Moins de 10% de la population d'Angola. C'est pour cela que moi je dirais que parler de nationalistes angolais, c'est faux.
Pour Salazar donc, pas question de reconnaître l'existence de mouvements indépendantistes, qualifiés de terroristes. Le Portugal s'oppose à toute idée de fédéralisme entre les provinces d'outre-mer et la métropole. Sur cette question, l'opinion publique et toute la classe politique sont unanimes au Portugal. L'Angola est portugaise et doit le rester.
Mais l'Angola, elle est portugaise.
Qu'elle le restera dans l'avenir.
Elle restera toujours portugaise.
Vous pensez que le Portugal gagnera cette guerre?
Oui, absolument.
Temos essa esperança. Vamos ver se eles quiserem.
Elle l'espère et feront de tout son cœur pour aider le gouvernement.
Quer sejam da situação, quer contra a situação, a guerra em Angola é um problema intocável para nós.
Même s'ils appartiennent à l'opposition, ils appuient le gouvernement sur ce point.
L'Angola est et restera portugaise. et ceux qui ont initié les violences sont présentés comme des terroristes. Le ministre de l'Outre-mer portugais.
Ce qui est arrivé dans la nuit du 14 pour le 15 mars 61, c'était un éclatement de terreur. Voilà que les bandes armées, droguées, ont venu de l'étranger, de dehors, du nord d'Angola, et ont tué plus en environ, c'est très difficile de dire, mais en environ 3000 personnes, 3000 Portugais. Mais ne croyez pas que ces 3000 Portugais étaient tous des Blancs. La grande majorité étaient des Portugais noirs, si vous voulez. Et bien, le monde n'a pas fait assez d'attention à cet développement, cet éclatement de terreur. Mais le Mau Mau à côté de ce qui est arrivé, où, comme je vous dis, 3000 Portugais ont été faits en miettes, c'est un pique-nique.
On parle de bandes armées. On fait de la surenchère sur le nombre de victimes. On s'emploie à montrer l'entente et le désir des Angolais de rester dans la grande famille portugaise. Face au déferlement de violence que masquent mal ses slogans, c'est « Viva Portugal », Lisbonne n'envisage toujours pas l'indépendance pour ses colonies. Il y a tous ceux qui évoquent l'exemple de la France, qui, sous la pression, a octroyé leur indépendance à ses colonies. Le ministre portugais Moreira rappelle la singularité du Portugal.
Nous sommes très habitués à être un cas unique. Nous avons l'habitude de dire que le difficile, nous le faisons tout de suite. L'impossible, ça prend un peu plus de temps, mais on le fait aussi.
Sauf que cette fois-ci, les choses semblent mal parties malgré les 33 000 militaires envoyés sur place. Les nationalistes ne se considèrent pas comme des bandits armés ou des terroristes et sont plus que jamais déterminés à recouvrer leur autonomie.
Viva Angola indépendente!
Viva Angola indépendente!
Abaixo o colonialismo!
Abaixo o colonialismo!
Abaixo Salazar!
Abaixo Salazar!
Le ministre portugais de l'Outre-mer.
Contre le crime, il n'a d'autre solution que la lutte ouverte. Et maintenant, nous sommes devant un crime de génocide, pas devant un mouvement d'autonomie.
Mais la violence appelle la violence. Et je pense que quand vous employez l'expression de « anéantir », vous dites bien ce que vous voulez dire.
Oui, je vais dire exactement « anéantir ».
Et la rébellion semble vraiment déterminée. Le Portugal est présent avec un contingent d'environ 200 000 hommes venus de métropole et des corps de colons volontaires. Le ministre portugais d'Outre-mer, Adriano Moreira.
Les chefs du terrorisme sont venus de l'étranger aussi.
En a-t-on capturé?
C'est très difficile de répondre à ça. Parce que nous avons trouvé parmi les cadavres des terroristes quelques-uns dont ils ont coupé la tête et les mains pour apporter avec eux.
En réalité, l'armée portugaise, qui a fait appel à tous ses réservistes, fait face à trois groupes armés. L'UMPLA d'Agostinho Neto, désormais installé dans l'enclave cabindaise, souvent considéré comme un parti d'intellectuels. Un cliché que n'acceptent pas les responsables du mouvement. Lucio Lara, l'un d'entre eux.
En réalité, nous ne sommes pas un mouvement intellectuel par les conditions mêmes de notre peuple. Vous savez que chez nous, l'analphabétisme ronde environ 98%. C'est vrai que quelques dirigeants ont fréquenté les universités en Europe et cela ne donne aucun caractère intellectuel à notre groupe.
L'autre mouvement de libération, le FNLA d'Olden Roberto, soutenu par le Congo et les États-Unis, la Chine, Israël, la France, la Roumanie, est installé au Congo voisin. Et à partir de 1965, il faut rajouter à ces deux-là l'UNITA de Jonas Savimbi, expression de l'ethnie Bundu, soutenue par les États-Unis d'Amérique. Un officier du FNLA, le mouvement de Holden Roberto.
Nous combattons, nous par exemple en tant qu'Angolais, nous combattons pour la cause de notre indépendance. Quoi. Vous voyez, il y a eu des parties différentes. Nous, par exemple, qui viennent de Kinshasa, nous devons combattre pour notre parti, puisque nous avons combattu avec ce parti pendant 14 ans. Il faudrait continuer à combattre avec ce parti, quoi. C'est ça.
Mais de l'autre côté, vous croyez qu'ils ne combattent pas pour l'indépendance de l'Angola ?
Oui, d'accord. Moi, particulièrement, je vais donner mon peu de vie. Du fait que, de l'autre côté, on recrute, voire même des gosses de 12 à 13, 14 ans, ça, c'est les tueries. C'est la tuerie, quoi. Hein? C'est le massacre. On tue les honnêtes gens, des histoires comme ça. Vous verrez ici, entre nous, il n'y a pas de gosses de 13, 14 ans. Et vous verrez ces mêmes garçons au front, aux lignes d'attaque, avec des armes automatiques, et puis c'est risquant.
André Gassinga, l'un des leaders nationalistes, appartient à un autre mouvement.
L'objectif est commun, c'est l'indépendance de l'Angola, mais seulement nous sommes divisés. Pas de par le moyen d'atteindre le but justement que nous voulons réaliser. Et si vous avez entendu que nous avons des difficultés au sein des grâces, c'est parce que certains auraient voulu être à la tête du gouvernement révolutionnaire de l'Angola.
Dès 1962, le FNLA forme un gouvernement angolais en exil à Léopoldville. L'ONU, de son côté, condamne les massacres portugais et reconnaît le droit du peuple angolais à l'indépendance.
Répondant à la décision unanime du Conseil de sécurité de demander au Portugal d'accorder le plus rapidement possible l'indépendance à ses possessions africaines, notamment à l'Angola, le président Salazar a réaffirmé sa position. L'Angola est une province portugaise et le pays la défendra. Pourtant, le président a proposé que le peuple portugais se prononce par un plébiscite sur la politique de son gouvernement. Pendant ce temps, en Angola, la répression se poursuit. Avec tous les moyens possibles, les troupes traquent les maquisards du gouvernement révolutionnaire en exil, dirigé depuis le Congo par Roberto Holden. Les troupes portugaises saisissent des armes et haranguent la foule. Enfin, à Léopoldville, devant les personnalités officielles congolaises, les troupes angolaises bien équipées défilent, tandis que la voix de l'Angola libre intensifie sa propagande anti-portugaise.
La voix de l'Angola libre, émission du gouvernement révolutionnaire de l'Angola en exil. Chers compatriotes, vous entendez la voix de l'Angola libre sur les antennes de la radio nationale congolaise. Chers frères et sœurs, on parle depuis quelques jours des élections que le gouvernement portugais voudrait préparer en Angola pour le mois de septembre. Méfiez-vous, méfiez-vous. Boycottez ces élections. Faites-vous tuer plutôt que de faire l'affaire de l'ennemi. Pour que la guerre prenne fin en Angola, il faut que le Portugal reconnaisse devant l'opinion mondiale le droit du peuple angolais à l'autodétermination et à l'indépendance.
En réalité, la guerre de décolonisation en Angola va susciter de velléités indépendantistes dans les autres colonies portugaises. Au Mozambique voisin, avec le Frelimo, le Front révolutionnaire de libération du Mozambique. Ou encore en Guinée-Bissau, avec le PAIGC d'Amilcar Cabral. Le Portugal doit donc se battre sur plusieurs fronts pour conserver ses colonies. Mais dans cette période de guerre froide, où chaque camp veut imposer son idéologie, où chaque bloc veut étendre son cercle d'influence, ces guerres d'indépendance vont rapidement se transformer en bataille entre les deux camps, les Occidentaux contre les communistes. Ainsi, le MPLA est soutenu par l'Union soviétique qui lui fournit de l'armement. Ce que lui reproche Holden Roberto, qui pourtant bénéficie du soutien de quelques grandes puissances, dont la Chine, mais également de quelques grandes nations occidentales. Le MPLA va connaître une réelle percée grâce aux armes que lui fait parvenir l'Union soviétique via Lusaka, en 1966. Des armes qui débarquent à Dar es Salaam, en Tanzanie, qui transitent par Lusaka et qui arrivent jusqu'à la frontière angolaise. Les maquisards du MPLA peuvent donc ouvrir le front Mexico-Cuando-Cubango, ce qui leur permet d'évoluer, d'avancer vers le cœur économique du pays. À partir de 1967, elles contrôlent une zone de savane de 300 000 km², une zone dans laquelle les guérilleros politisent la population. Agostinho Neto.
D'un autre côté, l'éducation politique de notre peuple est un élément que nous considérons essentiel. Notre peuple doit acquérir une conscience politique pour pouvoir résister à toutes les tentatives de l'ennemi de nous détruire, soit dans le présent, soit dans l'avenir, quand nous aurons acquis notre indépendance. Nous prêtons une attention particulière à l'éducation. Nous développons nos écoles primaires et nous sommes en train d'organiser l'enseignement des collèges et lycées.
Organiser l'éducation secondaire, l'instruction secondaire
Nous favorisons en même temps l'assistance médicale en augmentant le nombre d'infirmiers et en multipliant les dispensaires dans les territoires libérés. Telles sont les directions vers lesquelles nous nous engageons, c'est-à-dire structuration des moyens pour résister d'un point de vue matériel et aussi la fortification de la conscience politique de nos militants et de notre peuple.
Mais si sur le front, Agostino Neto avance et gagne du terrain, se rapprochant des zones économiques importantes, le Portugal, lui, n'a pas encore dit son dernier mot. Loin s'en faut. Pas question de se laisser ainsi jeter dehors par des guérilleros divisés, si peu armés. Le plus dur est à venir, comme nous allons le vivre la semaine prochaine dans la suite de cette série d'archives d'Afrique spéciale Agostino Neto. La guerre d'indépendance ne fait que commencer et elle va être rude et particulièrement meurtrière et longue. Mais les nationalistes semblent déterminés. Rendez-vous la semaine prochaine pour en parler. Mais vous pouvez évidemment, dès à présent, réécouter cette émission sur le site de RFI à la rubrique Les émissions ou sur le site archivesdavrique.com. Ou tout simplement sur votre téléphone portable en téléchargeant gratuitement l'application Archives d'Afrique sur Google Play ou sur iOS. Et n'oubliez pas que vous avez aussi la possibilité de réécouter l'émission sur le site de RFI et de continuer de réagir comme vous le faites sur notre page Facebook Archives d'Afrique qui compte déjà plus de 580 000 amis. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour la suite de la série d'Archives d'Afrique spéciale Agostino Neto. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. À très vite.
Então reclamou quando eu lhe disse que meu bem morava no subúrbio. Tempo chuvoso no subúrbio não vou, pois sou chofer de praça e não parquei. Então implorei, penso, senhor chofer, leve-me por favor. Ela não tem culpa de morar no subúrbio. Quanto à chuva, é obra da natureza. Então, chofer, dominado por mim, uma borracha puxou, atravessando lagoa. Quando eu olhei pro relógio e pedindo que colasse o acelerador ao tapete. Então, chofer, trombudo respondeu: se você quer ver seu amor, atravessa a lagoa a pé. Não vou partir meu popó só porque você quer dar show. Então, chofer, trombudo respondeu: se você quer ver seu amor, atravessa a lagoa a pé. Não vou partir o meu popó, não vou partir não, só porque você quer dar show. Oh,